Il est 13h.
Had to move from our home in Elton, from our old family home. Had to move. Government claimed a minute, didn't ask nobody's opinion. We had to move. Everybody had to pack and go, 'cause the government said so. We had to move. When the rumors turned to fact, then the whole town had to pack. All the white folks and the black had to move. When the government claimed the land, every woman, child, and man had to move. Everybody had to pack and go, 'cause the government said so. We had to move. Some big shot politicians made them big cigar decisions. Didn't need our permission, had to move. Building bomb factories, stretching across the three counties, had to move. Everybody had to pack and go, 'cause the government said so. We had to move. Had to move, all the graveyards too, all the stores and the schools had to move, all the sheds and the tools, all the cows and the mules had to move. Everybody had to pack and go, 'cause the government said so. He had to move. Mills, Hawthorne, Dunbarton, all gone. While the old folks prayed on, had to move. And nothing we could do when the government came rolling through. We had to move. Everybody had to pack and go, 'cause the government said so.
Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1008, aujourd'hui, hein, ce samedi 22 avril 2017. Voilà, une petite semaine de retard. Festival Band Blues oblige, et oui, il devait y avoir une émission le 15. Mais avec Band Blues, on ne choisit pas ces dates. Hein, 14 et 15 avril, ça a été absolument magique. Encore merci, grand merci à Patrick Lecacheur, à toute l'équipe de Band Blues pour cette 11e édition qui était absolument faramineuse. Voilà, je pense que tous les spectateurs qui étaient présents là-bas à Bande-Bretagne sont d'accord avec moi. Je vous donne tout de suite un petit aperçu du sommaire de cette émission, une émission qui durera 2 heures uniquement, hein, donc de 13h à 15h, avec 3 invités, 3 interviews donc. Jacques Morgantini, qu'on attend avec impatience, Jacques Morgantini qui avait été l'invité de l'émission en septembre dernier et également en janvier à l'occasion de la 1000e, et qui va aujourd'hui nous gratifier de 3 ou 4 titres inédits datant des années 70, enregistrés par ses soins ainsi que sa famille. On va reparler avec Jacques avec grand plaisir et avec la complicité de Jacques Gasser qui se trouve à côté de lui, à Gand, à côté de Pau. Merci déjà pour accepter de participer à cette 1008e émission, Jacques. À partir de 14h, on aura Mo Al-Jazz qui nous parlera de la sortie de son album entièrement dédié à la mémoire de Little Walter, qui est un harmoniciste des plus valeureux de l'immédiate après-guerre pour les fans du Chicago Blues électrique. Et puis vers 14h30, troisième interview, Gaël Busvel qui nous parlera de la sortie de son tout nouvel album qui s'est passé très très récemment, il y a quelques semaines, et de son actu parce qu'elle a également plein de choses à vous raconter. Voici une première nouveauté dans cette émission. C'est l'album de Godbout qui s'appelle Play Music and Dance. Jérôme Godbout, également Eric Schenkman, Sean Kellerman et Gary Craig. Donc c'est du blues parfois un petit peu musclé, un petit peu blues rock comme ce titre Honey Badger. Et puis juste après on replonge dans les années 70 grâce à Jacques Morgantini.
Now you say you just don't care. God knows I love you. God help me to explain. God knows I love you. God help me to explain. You didn't write the story. You're just an actor in a play.
Voilà, il va de soi qu'on viendra sur cet album qui s'appelle Play Music and Dance, tout simplement. Voilà, un beau programme, 13 titres qu'on qualifie de Upbeat Blues Funk Hits. C'est chez V-Stone Records que l'album de ce collectif God Boogie autour de Jérôme Godbout, l'harmoniciste, chanteur, accordéoniste et percussionniste. Également Eric Schenkman au baryton, à la guitare et au chant. Sean Kellerman qu'on connaît pour tourner très très régulièrement avec un certain Lucky Peterson, lui là sur la guitare, et ben, on l'a entendu, et puis également il fait de la basse, et puis Gary Craig à la batterie ou percussion. Voilà l'album de Jérôme Godbout qui s'appelle God Boogie Play Music and Dance. On va replonger une petite quarantaine d'années en arrière grâce à Jacques Morgantini, l'un de ses inédits qu'il nous a promis pour cette 1008e émission. Grand merci à toi Jacques, à vous Jacques, maître Jacques, à toi Jacques Gasser, à vous maître Jacques Morgantini, pour nous faire partager cet enregistrement, notamment à Pau, de Monsieur Muddy Waters, Walking Blues. Yeah, you know, one day soon, girl, Voilà, nous étions en 1976 grâce à la magie de l'Internet, grâce à la magie de la numérisation de tous ces titres et à la magie du téléphone. Maître Jacques Morgantini, bonjour Jacques.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
Depuis la dernière fois, c'était au mois de janvier, c'était la millième de Sweet Home Chicago. Encore merci d'avoir participé à celle-ci et puis à celle qui a suivi notre première entrevue à Cahors en 2016. C'était en septembre pour cette première grande interview à propos de la saga Morgantini. Jacques Morgantini, précurseur du blues en France.
Eh bien, vous êtes bien honnête, mon jeune ami.
Alors, c'est toujours une joie, c'est toujours un grand honneur, un partage. Depuis qu'on s'est revu, c'était en février dernier. C'était pas vraiment un stage comme ceux que vous pouvez organiser chez vous, mais ça y ressemblait fort. En tout cas, je pense que voilà, ça a dû faire pas mal d'envieux autour de moi. On est entouré dans ce bureau auquel vous êtes attablé probablement en ce moment. On est entouré de témoignages inestimables.
Mais ma foi, oui. Ici, dans cette maison, depuis 1963, avant c'était chez mes parents avec Big Bill, avec bien d'autres, et dans cette maison, il y a eu un défilé vraisemblable de tous les grands du blues, du jazz aussi, bien sûr, mais surtout du blues, et je ne vais pas vous les énumérer, parce que, d'abord, je n'aurai plus de salive,
oui.
Pour arriver au bout, et en plus, vos auditeurs risqueraient de s'endormir. Alors, ce que je ne veux absolument pas.
Non, ça, il n'y en est pas question. De toute façon, voilà, à partir du moment où je vous ai au bout du fil, je vous tiens, je ne vous lâche plus. Ça a commencé, cette saga, vers le début des années 50, avec Big Bill Bronzy, qui nous a quittés depuis, malheureusement. En 1958, lors de l'inhumation de Big Bill Bronzy, on a prétendu que le blues était mort avec lui. Est-ce que les gens de votre entourage à cette époque-là, du Hot Club de France, pensaient la même chose?
Non, pas du tout, non. Pas du tout. Parce que vous savez, j'étais une sorte de petit canard parmi tous ces magnifiques cygnes qui étaient blancs, immaculés. Moi, j'étais le canard qui parlait tout le temps du blues. Alors, il y en a beaucoup, vous savez, au Hot Club de France, et la vérité, qui était là, c'était Lou Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, et tous les autres, tous les immenses musiciens, Lionel Hampton. Et quand je parlais de blues, oh, c'est braillard, c'est pas intéressant, ça swing pas, comme ci, comme ça, etc. Donc, moi, j'ai continué mon chemin dans le blues et ça n'a jamais cessé.
Est-ce que ça vous a pas empêché d'être ami intime de Lionel Hampton, par exemple?
Ah ben non, pendant 40 ans.
Ouais, alors quand...
Et même, j'allais chez lui à New York, il venait chez moi, même en dehors de ses tournées et des concerts, on passait quelques jours. Il y a eu Buck Clayton, le grand trompettiste, qui est resté pendant 8 jours ici. Mais il y a eu également, pendant 5-6 jours, Luther Allison, qui est resté à la maison. Et tous les matins, au petit déjeuner, il prenait sa guitare sèche et on s'envoyait des blues. J'enregistrais quelques-uns, du reste. Et c'est dans Mémoire de blues, ça, bien sûr.
Oui, c'est dans le DVD qu'a réalisé Jacques Gasser, qui était à côté de vous. Jacques, que je salue à nouveau. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette dichotomie, en fait, entre les amateurs de musique? Il y avait les amateurs de jazz avant-guerre, hein, parce que le jazz, on connaît ça depuis l'entre-deux-guerres, je pense, en France. Et puis l'arrivée du blues avec les soldats américains. Comment est-ce qu'on explique cette guéguerre qu'il y avait entre les amateurs de jazz et amateurs de blues?
Eh bien, écoutez, là, j'ai pas d'explication. Ce que je sais, c'est que moi, j'avais les deux pieds dans le jazz et dans le blues, et que j'ai eu beaucoup de résistance à faire passer mes idées sur le blues à tous les amateurs qui étaient les du Hot Club à l'époque. Hein?
Oui.
Et c'est moi qui ai fait venir Big Bill Bronzy, le premier. Si je dis « je », parce que je peux pas parler au nom d'Henri Désiré Landru, moi je ne sais pas comment ils faisaient pour faire brûler ces cicatrices, mais moi en tout cas pour le blues, ce que je sais c'est que j'ai eu par un correspondant, par hasard, l'adresse de Big Bill Bronzy.
Ouais.
J'ai dit à Panassier, Hot Club de France, faut qu'on le fasse venir. Oh, vous croyez, ça intéresse qui, etc. J'ai dit, en tout cas, ça m'intéresse moi.
Bon.
Et j'ai fait venir, j'ai écrit à Big Bill Bronzy, et je lui ai proposé de faire venir, et c'est comme ça qu'il est venu en 1951, pour la première fois en Europe. Il est venu par la suite, sans mon aide, mais là, la première fois, là, c'est moi qui l'ai fait venir.
Ouais, et puis on a des photos qui témoignent de ça. Est-ce qu'il y a des enregistrements audio qui témoignent de ça également, ou vidéo peut-être?
Non, rien en vidéo. Un petit peu en photo, mais très peu, parce que ce qui s'est passé, je peux le raconter, ça va intéresser ça.
Oui.
Il a été également en Hollande. Et au cours d'une soirée, il y a des types qui l'ont enregistré.
Oui.
Ah bon, ben, il a accepté gentiment d'être enregistré. Et ils ont sorti des disques dont il n'a jamais vu 20 sous.
D'accord.
Alors, une fois j'étais là, à la maison, et je lui dis, tiens, Bill, je vais t'enregistrer, chanter l'autre jour une version magnifique de Howlin' Blue, j'aimerais bien l'enregistrer. Il m'a dit, non, je ne vais pas t'enregistrer.
Ouais.
Je lui dis, mais c'est moi qui t'ai fait venir, et tu sais que ça ne sortira pas d'ici. Eh bien, il n'a pas voulu. Alors, j'ai rengainé. J'ai pas voulu hypothéquer la soirée.
Oui, bien sûr. Ouais.
Sans amis, voilà.
Ça a été le seul bluesman à décliner l'invitation à être enregistré à Gand? Ou est-ce qu'il y en a d'autres?
Qui n'a pas voulu être enregistré.
Qui n'a pas voulu, non. C'est le seul. Un autre, on ne demandait pas aux musiciens. Ils allaient spontanément chercher leur guitare dans le bus et ils jouaient après le repas ici. Et ils acceptaient tous d'être enregistrés. Il y en a un qui auquel j'ai rien demandé, comme toujours, mais il n'a pas joué, c'est Louis Myers.
Oui.
Et après, quand on a été à Chicago, on était toujours fourrés avec Fred Billot et les frères Myers, et Jimmy Dawkins aussi, pour les emmener manger à droite à gauche, etc., parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de pognon. Et là, il y a Louis Myers qui m'a dit quelque chose de touchant. Il m'a dit, tu sais Jacques, je ne savais pas quand je suis venu chez toi les gens que vous étiez. Et je regrette de ne pas avoir joué chez toi. Mais maintenant, ce que je veux absolument, c'est revenir en France et jouer chez toi.
D'accord. Et en tout cas, il a été enregistré par Marcel et vous, pour le compte de MCM Records. Hein,
c'est bien sûr, oui. Ouais. Il a été enregistré magnifiquement. Mmh. Il a été enregistré aussi en concert, mais là, à la maison, au cours de ces après-midi et ces soirées intimes, entre les musiciens et nous, eh bien, il n'avait pas accepté. Et il m'a dit qu'il regretterait tout le temps, mais qu'il voulait réparer ça et qu'il voulait venir enregistrer.
Alors, on a écouté déjà des enregistrements qui ont été réalisés sur Gand, dans la maison familiale. Parmi les quatre inédits que vous nous proposez aujourd'hui, il y aura donc Luther Snake Johnson avec Little Maximum. Ça, c'est enregistré dans la salle à manger familiale. Hein.
Voilà, absolument. Je vous ai montré l'endroit. Il était assis sur le banc, le dos appuyé le long de la table. Ah.
Oui, dans la même pièce que John Lee Hooker en 1969, quelques années avant.
Voilà, voilà. Lee Hooker, que Rosetta Tharpe en 66, etc., etc.
Alors, on a écouté tout à l'heure Muddy Waters. Ça, c'était pas un enregistrement à la maison, c'était à Pau, parmi les concerts que vous avez pu organiser avec, j'imagine, le club de Pau, hein, c'est ça?
Oui, bien sûr.
Et là, on était en 1976. Alors, cet enregistrement de Muddy Waters, qui est un inédit maintenant, qui ne l'est plus puisqu'il vient de passer à la radio Walking Blues, pas forcément un titre inconnu, bien entendu, il l'a enregistré maintes fois. Il a été fait avec la complicité de quel musicien? En 76, il tournait avec qui? Il y avait Pinetop Perkins au piano? Il y avait qui d'autre?
Perkins, Big Eye Smith à la batterie, Calvin Jones à la contrebasse, Jerry Portnoy à l'harmonica, Walter Johnson Jr., pas Snake,
oui,
le grand,
l'autre.
Junior à la guitare et Bob Margolin à la guitare également.
Voilà. J'ai une question parce que vous savez que Sweet Home Chicago est une émission qui est suivie internationalement sur les réseaux. Il y a un ami auditeur qui s'appelle Olivier Durosso qui m'envoie un fichier là, qui est en fait une affiche du Chicago Folk Blues Festival. Et c'est l'autre club de Pau qui présente cette affiche avec Homesick James, Roosevelt Sykes, Eddie Taylor, Louis Myers, Dave Myers et Fred Billot, donc les Aces. L'affiche a du lundi 7 décembre. Il aurait aimé savoir de quelle année il s'agit.
C'est 69.
1969, voilà, Olivier, tu as ta réponse. Au Casino Municipal de Pau, le 7 décembre 69. Est-ce que ça correspond à peu près aux premières tournées du Chicago Blues Festival?
Absolument, absolument. C'est le grand-père.
Voilà, donc...
C'est le grand-père ou la grand-mère de la série des Chicago Blues Festival.
Donc on est en 1969 et à l'époque ça s'appelait le Chicago Folk Blues Festival, peut-être voilà. en clin d'œil j'imagine à l'American Folk Blues Festival.
Voilà, exactement.
Qui avait été instigé par les Allemands Lippmann et Rao à partir de 1962. Ce sont des tournées auxquelles vous avez pu assister en tant que spectateur?
Oui. Bien sûr, c'est là où j'ai rencontré pour la première fois Fred Billot, qui est devenu un ami intime, un frère vraiment. Je lui avais dit qu'on ne voyait pas son nom assez souvent sur les disques de sur les étiquettes des disques. Il m'a dit, c'est comme ça. Dans le jazz, on sait qui joue, mais pour nous, le blues, on ne sait jamais. On met juste le nom du et encore.
Alors, j'ai une petite rectification de la part d'un autre ami auditeur qui dit qu'effectivement, sur l'affiche, il y a écrit tout en bas, location à partir du 30 novembre 1970. Ça serait peut-être plutôt 1970, l'affiche. Enfin, voilà, 69, 70.
Alors, dans ce cas-là, c'est l'âge. Hein.
Oui, mais de toute façon, 69, 70, voilà, c'est...
C'est tout à fait à la fin de l'année, c'était à cheval sur les deux années. Parce qu'ils sont revenus après, encore une autre fois.
Alors comment ça se passait à l'époque? Moi j'aimerais bien savoir, parce que là on va avoir des inédits tout à l'heure de Magic Slim, de Luther Allison, ça en fait saliver quelques-uns. Comment on fait pour organiser des tournées, hein, parce qu'une date ne suffit sûrement pas, pour tous ces musiciens-là qui sont considérés quand même comme les pères du Chicago Blues moderne?
Ben oui, ben écoutez, c'était pas compliqué. Moi, je connaissais ces musiciens, la plupart par le disque, et mon ami Jean-Marie Monestier, le fondateur de la marque Black and Blue de disques, me faisait confiance, et c'est moi qui lui disais, tiens, on fait venir plutôt un tel, un tel, un tel, et par les contacts, surtout par Jimmy Dawkins, par les contacts que nous avions, eh bien, on choisissait six musiciens. C'était l'idée d'avoir six musiciens de styles différents, mais qui pouvaient... Ils avaient en commun, évidemment, une chose, c'est le blues éternel. Et vous prenez un type du Texas à un autre de Floride, vous les collez ensemble, ils ne sont jamais vus de leur vie.
Et ça marche.
Ils tournent à 100 à l'heure. Parce que... ils ont ça, les racines en commun.
Ça fonctionne dans tous les cas. Alors, on vient d'évoquer un petit peu le nom de Jimmy Dawkins. C'est vrai qu'il avait déjà à l'époque une âme de manager ou presque de tourneur. C'est un garçon qui a fondé ensuite Lyric Music et qui s'est beaucoup intéressé notamment aux droits d'auteur des musiciens parce qu'il a considéré que, comme on vient d'en parler avec Bill Bronzy, il y en avait certains qui se faisaient quand même piller leur répertoire.
Voilà, absolument. Ce qui s'est passé, c'est que Jimmy Dawkins, nous l'avons bien vu, il a été d'une aide considérable pour qu'avec Marcel, on puisse enregistrer des musiciens à Chicago. C'est lui qui nous mettait en relation avec les propriétaires de clubs comme le Mabiz ou bien le Queen Bees ou le Golden Sleeper pour organiser, parce qu'on enregistrait toujours livre vivant avant l'arrivée du grand public, si vous voulez, dans la soirée.
D'accord. Hein,
pour ne pas être dérangé par des gens qui éméchaient à minuit, comme commence à perturber un peu le déroulement. Mais c'était en début de soirée qu'on commençait à enregistrer.
Ouais. Et alors, ces enregistrements-là, il y en a une partie, donc les enregistrements de Chicago qui ont été réalisés sur disque. Il y a des inédits encore, il y a ce que certains qualifieraient de fond de tiroir, il y a des choses qui intéressent forcément même les amateurs de 2017, dont je fais partie. Est-ce qu'il est prévu que tout ça sorte sur CD ou sur d'autres supports?
Et écoutez, vous savez peut-être qu'on a sorti avec l'aide de Storyville un premier coffret qui
s'appelle
The Chicago Blues Box.
Ouais.
Et Chicago Blues Box était une partie des enregistrements faits dans le stock MCM. Or, je travaille actuellement avec eux sur le volume numéro 2 qui verra l'arrivée de pas mal d'inédits à l'intérieur de ce coffret. Il comportera 8 disques également.
On peut rappeler le nom du label Chicago Blues Box, édité par...
Par Storyville.
Ah, c'est ça, Storyville, voilà.
C'est danois.
Donc, alors, il y a une actu, c'est prévu pour quand, ce volume 2
vers l'été, si vous voulez.
D'accord.
Alors, je continue à transpirer, mais j'ai acheté des serviettes éponges pour m'éponger, Et s'il y a des jolies filles qui sont prêtes à venir éponger mon front glorieux, faut m'envoyer leurs photos d'abord.
Il n'y a pas de souci, j'en connais au moins une, elle est à l'écoute en ce moment, elle s'appelle Sylvie, ça devrait aller. Salut Sylvie. Voilà. J'ai mis ça sur l'internet, sur le Facebook, voilà, de Chicago Blues Box avec Jimmy Dawkins, Jimmy Johnson, Willie Kent, Eddie Clearwater, Big Voice Odom, Andrew Bluebob McMahon, Magic Slim, Big Mojo LM et Bobby King. Bobby King qui n'a enregistré qu'une seule fois, c'était pour MCM justement.
Hélas, parce que la seconde fois, on était à Chicago et la seconde fois, sa compagne, on avait été manger chez lui du reste, très bien, mais c'était l'année précédente et là, le téléphone, on avait prévu pour un jour une séance avec Bobby King encore, car il nous plaisait tellement. Et alors là, il me dit, elle me dit plutôt, eh bien, il ne viendra pas. Je dis, comment ça, il ne viendra pas? Ben, il est mort il y a deux jours du cardiaque.
Oui, ça, c'était...
Là, ce type n'aura fait qu'un disque dans sa vie, c'est le MCM, mais ça prouve la qualité énorme de ce musicien.
Il y a...
Tant qu'il est plus que chanteur.
On parlait tout à l'heure de Luther Allison qui a dormi à la maison à Gand et puis qui se dérouillait les doigts sur la guitare sèche. On a assez peu d'enregistrements de Luther Allison à guitare sèche. Il y en a quelques-uns qui auraient été édités de mémoire chez INAC, le label allemand. C'était au début des années 90. Luther Allison qui nous a quittés il y a presque 20 ans. Hein. C'était en août 1997.
Oui, oui.
Comment il était Luther Allison? C'est quelqu'un d'extraverti.
Très très chaleureux.
Ouais, extraverti, non?
Très très chaleureux, il était toujours d'accord. Hélas, moi je le sais ça, parce que il a eu un petit admirateur qui était un postier, il s'est occupé de lui à un moment. Et ce jeune, n'est pas très connaisseur, lui a dit, c'était en 82 par là, lui a dit, oh, tu sais maintenant c'est la soul music, c'est ceci, tu ferais bien de faire ça. Il l'a aiguillé sur une voie de garage qui n'était pas la sienne. Et une fois, j'ai revu Luther Allison, je lui ai dit, tu te trompes de cible. Là, tu n'es pas connu là-dedans, ça ne donne rien. Tu vois, tu n'as presque plus d'engagement.
Oui.
Tous tes admirateurs t'ont laissé tomber parce que tu ne corresponds pas. La musique que tu joues maintenant ne correspond pas à ce que tu es capable de faire au maximum. Alors, je lui dis, tu dois te ressaisir. Et c'est là où il m'a dit, j'ai assisté à un concert où il a recommencé au début des années 90, il a dit, I play the blues now because I'm a bluesman.
Ouais, ouais, ouais.
Il a recollé au blues et c'est là où il a eu tous ses succès avec les concerts que l'on connaît à La Réunion, à Montréal et autres.
C'est vrai.
Hein, il était absolument admirable.
Et ça correspond.
Et là, il est mort. Après, il n'a pas pu profiter de ce regain de succès.
C'est vrai, ça correspond d'ailleurs au début de la carrière de son propre fils, Bernard Allison. 1990, c'est l'année de sortie du premier album de Bernard Allison, qui s'était dès le départ un peu éloigné du blues et avec qui il avait renoué. J'avais un souvenir personnel d'une tournée de 1991 avec Luther et Bernard, où c'était absolument sublime, hein, sur le Lisieux Blues Festival, un festival défunt maintenant. Et puis, effectivement, ce concert à La Réunion, qui a fait l'objet d'un DVD, je crois qu'il avait été enregistré 96 ou 97, enfin...
À 96, il y a celui de Montréal, 97 peut-être.
Ouais,
alors je m'excuse auprès de mes admiratrices les plus ferventes. 96, 97, etc.
Avec un certain Bonnefils à la trompette, notamment, d'ailleurs.
Non, mais je peux leur dire que ma température actuellement est de 37,2.
Voilà, ben ça c'est une information. Jacques Morgantini au téléphone dans Sweet Home Chicago. On pourrait discuter pendant des heures, multiplier les anecdotes. On va peut-être parler de Luther Snake Johnson et de Little Mac Simmons juste après avoir écouté ce titre.
Je recommande à monsieur de venir voir le vieil homme pour écouter ce que j'ai enregistré de Luther Allison le matin après le petit déjeuner.
Ah oui, alors ça j'ai pas eu droit l'autre fois, c'est vrai que ça...
Ah bah oui, on peut pas tout avoir d'un coup.
C'est clair, il va falloir revenir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écoute on écoute Luther Allison finalement? Qu'est-ce qu'on fait? On écoute Nightlife de Luther Allison?
Ça c'est monsieur qui dirige la manœuvre, hein.
Eh ben allons-y, on va écouter Nightlife, enregistré à Pau en 1977, voilà, c'est un inédit que vous nous offrez. On se retrouve juste après, Jacques Morgantini.
Entendu.
Thank you.
Voilà, fabuleux extrait de ce concert de 1977 donné à Pau grâce à Jacques Morgantini. Jacques Morgantini au téléphone avec nous en direct de Gand à côté de Pau. Ça va toujours, Jacques ?
Ça va toujours. Bon. Je suis avec... J'ai un petit ennui, c'est que Jacques Gasser, qui est à côté de moi, vient d'aller dans l'armoire au liqueur et il est en train de vider ma cave.
Ah, eh ben peut-être faut-il lâcher le téléphone et aller s'occuper de ça tout de suite parce que Jacques Gasser avec les liqueurs, voilà, je sais pas si c'est très très bon pour son... Hein.
quelque chose.
Ça va, Jacques? Jacques Gasser qui était également là. Jacques...
Non, c'est parfait.
Comment? On t'a pas bien entendu, Jacques.
Tant que j'ai l'apéro, c'est parfait.
D'accord, l'apéro, il est quoi? Il est 13h42, hein, de toute façon, l'apéro c'est depuis 11h jusqu'à 14h à peu près, c'est ça?
Oui, jusqu'à 15, hein.
Ah oui, effectivement, j'avais oublié le décalage horaire. On vient d'entendre Luther Allison, Jacques Morgantini. On peut parler également d'un autre artiste de blues que j'ai pu rencontrer plusieurs fois et qui m'a également profondément marqué. En tout cas, moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir peut-être le témoignage de cette première rencontre avec Magic Slim, Jacques Morgantini.
Eh bien, c'est pas compliqué, Magic Slim... c'était toujours nos amis les As, The Aces, c'est-à-dire Bilo, les frères Myers, Dawkins, Big Boy Sodom, qui étaient nos gardes du corps et nos indicateurs. Et ils nous disent un jour, on va aller écouter Magic Slim parce qu'il joue ce soir dans le West Side. C'est un des deux ghettos de Chicago. Mais là, celui-là, il est particulièrement rugueux.
Oui.
Et quand on est descendu de voiture, ils nous ont recommandé de marcher groupé. On a fait absolument la tortue romaine.
Oui, hein,
on est rentré dans la boîte, c'était assez grande, ma foi. Et un des musiciens est venu en avant pour retenir une table pour nous, pour être très près des musiciens, bien entendu. À ce moment-là, il y avait... le jukebox qui tournait, les musiciens s'étaient pas encore bien installés, et j'avais un petit magnétophone, mais de qualité, avec deux micros, et j'ai mis ça sur la table.
Mmh.
Alors soudain, je vois une ombre, qui, évidemment, Magic Slim, 2m6, alors c'est impressionnant. Il s'amène, il me dit, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, bah, c'est un tape-recorder, c'est un magnétophone. Je dis, mais je n'enregistre que quand vous me donnez votre accord. Si c'est d'accord, je le fais, sinon je le fais pas.
Ouais.
Il me regarde, il regarde les autres, il dit « Do it, fais-le
mmh. !»
J'ai dit « Bah avec plaisir !» Et c'est là où j'ai enregistré 7-8 morceaux. C'était la première fois que j'entendais Magic Slim. Inutile de vous dire que j'ai été absolument KO avec ma femme quand on a entendu ça. je n'en croyais pas mes origines, mais c'est pas possible quand même. Je vais dire un truc qui va gêner beaucoup de gens qui ne sont pas du Sud-Ouest. Je dis, mais putain, il y a deux marques de disques à Chicago, en tout cas, Delmark en tout cas, qui sont spécialisés dans le blues, ils sont à 5 km d'ici, et il y a ce type qui traîne depuis 15 ans, hein, ils sont pas capables de l'enregistrer. C'est comme ça qu'on a eu l'idée avec ma femme, qu'elle revienne avec mon fils, bien sûr, qui s'occupait du magnétophone. Je lui avais montré quand je pouvais pas y aller.
Oui.
Et c'est comme ça que on a pris contact avec Magic Slim. Mais je peux vous dire une chose, c'est que quand je suis rentré en France, après ce voyage qui avait lieu en juillet 1975, eh bien, j'ai été littéralement malade. Je jouais du matin au soir la musique que j'avais enregistrée de lui, mais j'avais soif.
Ouais, je comprends.
Encore plus de lui. J'avais soif. Je savais que c'était une fontaine qui coulait d'une manière constante, hein, qu'il en avait sous le pied sans arrêt. Et je voulais absolument voir. J'ai écrit à des correspondants américains. Ils n'ont pas été capables d'y aller, de l'enregistrer. Oui. Et c'est comme ça qu'on y a été et qu'on l'a enregistré.
Voilà, et il figure sur deux albums MCM de mémoire, je crois.
Hein. C'est ça.
Ouais.
Alors, évidemment, et là, il y a encore de la matière, hein, qui sera dans le prochain, la prochaine Chicago Box,
voilà.
Blues que Storyville fait avec mon concours.
D'accord, et ça va sortir cet été. On écoutera tout à l'heure un inédit de Magic Slim de 1978 qui a été enregistré à Pau. J'ai une question d'un auditeur là sur le Facebook qui demande, Jacques, est-ce que vous allez encore voir des concerts et qu'est-ce qui vous plaît en ce moment ?
Eh bien, écoutez, je vais au festival de La Roquebrune, qui est un festival de boogie-woogie,
oui.
Et j'ai découvert, il y a déjà un bon bout de temps, Jean-Paul Amouroux, qui a fait beaucoup pour faire connaître le boogie-woogie en Europe, et qui m'a fait connaître également Jean-Pierre Bertrand, qui est absolument magnifique, et que j'ai fait venir, du reste, pour de nombreuses fois, à Pau, soit en concert à deux pianos, concert public, soit en soirée privée chez moi, et j'écoute des musiciens comme l'espagnol Tonki de la Peña, que j'ai fait revenir encore dernièrement avec son Tonki Blues Band, qui est un guitariste absolument remarquable, éminent, un des meilleurs d'Europe certainement.
Tonki de la Peña qui se produit également avec un certain Nico N. Toussaint.
Voilà, Nico est un familier de la maison,
oui.
J'ai des soirées privées qu'on organise ici. Il y a Michel Foison aussi. Il y a... et puis j'ai fait venir le blues de Paris, c'est-à-dire François Fournet avec Bro, magnifique au saxo ténor, un type qui ne dégouline pas des notes les unes derrière les autres, mais qui joue des sons. Les notes, on s'en fout. Ce sont les sons qui sortent d'un instrument.
On parlait de Jean-Paul Amouroux, on peut également évoquer un plus jeune musicien qui est dans la même tradition, c'est Julien Brunetto, hein, il est venu également à Gand.
Julien Brunetto, je l'ai fait venir également deux fois, parce que j'ai pas le temps de vous donner les noms de tous ceux.
Nico du Portal aussi.
Ah bah oui, bah oui.
Portal, qui est magnifique, également Bentouri.
Ouais, Bentouri, ouais.
Bentouri aussi, qui se sont devenus des amis, nous correspondons, ils viennent toujours au moins une ou deux fois par an animer des soirées, chez moi-même, je personnellement.
On a des tas d'images de tout ça.
Il y a des tas de photos, oui. Ben, on évoquait Michel Foison, bien sûr Gladys Amoros, hein, qui partage sa vie et la scène. Il y a plein de musiciens comme ça actuels qu'on pourrait citer. Quand on s'est rencontrés à Cahors l'an dernier, après avoir reçu votre award, Monsieur Morgantini, vous êtes descendu dans la fosse au Lyon pour applaudir un certain Sugar Ray Rayford. Est-ce qu'il vous a laissé un souvenir, ce garçon-là ?
Ah oui, celui-là, c'est un bon.
Ouais. Un grand type également, un petit peu à l'image de Magic Slim. Hein.
Il a pris de la bidoche peut-être chez le boulanger, chez le boucher, pour arriver à la mettre autour de son corps parce qu'il fait trop dans ma taille.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Il y a des endroits où justement on évoquait KO, et des endroits où on va pouvoir vous voir, vous entendre lors de conférences que vous continuez à donner. KO 2017, peut-être on peut en parler avec l'ami Robert Moriès qui préside le destiné de ce festival.
Robert m'a demandé de venir faire une causerie et je me servirai d'un Américain qui fait beaucoup pour faire connaître le blues dans son pays, dans les écoles, les universités, et Hawkins Herman, et lui demander qu'il illustre certains de mes propos avec sa guitare. Ça mettra un peu de piment.
Donc ça s'appelle une conférence musicale.
Conférence musicale, c'est musique et paroles de blues. Je donne des traductions de certains blues qui sont souvent désopilants.
Ça sera lors du prochain Cahors Blues Festival, entre le 11 et le 15 juillet 2017. Signalons que le Cahors Blues Festival est le plus vieux festival de blues en France.
La causerie aura lieu le 14 juillet.
14 juillet, ben ça sera...
Il y a deux événements importants, ma causerie bien sûr, et le défilé du 14 juillet.
Voilà, et puis avec le nouveau président de la République. Mais ça, on n'en parle pas aujourd'hui.
Le 14 juillet, Jacques Morgantini sort de son lit douillet.
D'accord. Il y a également Blues sur Suresnes, alors on va terminer avec ça peut-être, Jacques. Blues sur Suresnes, là encore une conférence à Suresnes, en région parisienne, ça sera pour quand? Le mois de mai, je crois.
Le 18 mai.
Le 18 mai à 20h, il y aura surtout projection d'une partie qui a été sélectionnée par l'incontournable Jacques Gasser. De blues, et je répondrai aux questions et je donnerai quelques anecdotes sur le déroulement de ces enregistrements, de ce que j'ai vécu. Quoi.
Très bien. Le 18 mai à Blues sur Suresnes, ce nouveau festival à Suresnes, en région parisienne, et puis le 14 juillet à Cahors. Jacques Morgantini, on n'est pas sans se revoir, on n'est pas sans se contacter de temps à autre. Encore mille fois, merci d'avoir participé à cette 1008e Sweet Home Chicago. On a écouté tout à l'heure Muddy Waters et Luther Allison. On va continuer avec Luther Snake Johnson et Little Mac Simmons, enregistrés à Gand dans la salle à manger. Et puis Magic Slim, enregistré à Pau un petit peu plus tard, en 1978, voilà, les années 70. Merci, grand merci, Maître Jacques. Jacques Gasser qui intervient au téléphone. Jacques, tu...
Oui, je voulais dire que nous sommes en train de réfléchir sur comment sortir l'ensemble des inédits en CD.
Et ça, tu penses que ce sera possible à terme?
D'abord, on va régler les problèmes juridiques et puis ensuite on va attaquer, si c'est possible, on va attaquer les numérisations ou celles qui ne sont pas faites et ensuite la conception graphique de l'ensemble de l'œuvre. Voilà.
Jacques Gasser, je te fais entièrement confiance pour cela. Tu connais Jacques Morgantini depuis un moment et tu sais justement comment faire ce genre de choses. Rappelons pour les amis auditeurs que Mémoire de Blues, le double DVD qui était sorti l'an passé, et l'œuvre de Jacques Gasser autour de celle de Jacques Morgantini. Merci les deux Jacques. Et puis, en espérant se revoir très bientôt. J'espère à Cahors en tout cas.
Je monte dans ton patelin et je cogne.
Ça marche très bien, Jacques. À bientôt, bon week-end. Au revoir, encore merci. Mille merci.
Merci Marc encore et bravo pour ton travail.
Oh, merci. Alors ça c'est vraiment... C'est, vous en êtes un autre, hein?
Non mais... Oui. Allez, à bientôt.
Au revoir, à bientôt. À bientôt. Hein? Coming back again. incroyable cet enregistrement en 1975 en direct de la salle à manger de maître Jacques Morgantini avec Luther, Snake Johnson et Little Mac Simmons, le titre Don't Take My Baby Nowhere. Voilà, merci encore pour ces inédits, merci pour l'interview, merci pour le partage de la mémoire et puis merci également à Jacques Gasser pour perpétuer cette mémoire et puis la numériser ensuite sur CD. Ça va être quelque chose. On attend toutes ces sorties avec grande impatience. On poursuit comme prévu, comme promis, malgré le léger retard, avec Going Down Slow. On est à Pau en 1978 et c'est Monsieur Magic Slim.